Chers amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commencerai par la mauvaise. Vous et moi, on va mourir bientôt. Non, je ne suis pas médium. Je n'ai pas vu ça dans ma boule de cristal. Je n'ai pas non plus posé de bombe dans cette salle. Mais il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que notre vie est brève et fragile et que nous mourrons bientôt. D'ici 50 ans, la plupart des personnes parmi nous qui m'écoutaient, vous aurez tiré votre révérence. D'ici 100 ans, peut-être y aura-t-il quelques rescapés à l'école du dimanche et dans la crèche. Et même s'il nous reste 50 ou 100 ans, c'est peu de temps. Avant-hier, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. Après-demain, si Dieu me prête vie, j'en aurai 70. Et j'ai l'impression, au fur et à mesure que j'avance dans l'âge, que ça s'accélère. Nous mourrons bientôt. Notre société n'aime pas trop parler de ça. Et quelqu'un a pu dire, à juste titre, me semble-t-il, que la mort, c'est la nouvelle pornographie. Vous voyez, il y a 100, 200 ans, on pouvait parler librement de la mort. On ne pouvait pas parler du sexe. Aujourd'hui, on met le sexe à toutes les sauces. Mais essayer de parler de la mort dans un dîner en ville, vous ne serez plus invité. Le texte que nous avons écouté dans ce magnifique morceau, le texte de Jean 11, nous plonge en présence de la mort. Il s'ouvre sur un message que reçoit Jésus. Jésus est au nord du pays, en Galilée, sa patrie d'adoption, si on veut. Jésus s'est retiré en Galilée parce qu'en Judée, c'est devenu très dangereux pour lui. Il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. On a essayé de le lapider. Et lorsqu'il est en Galilée, il reçoit le message « Lazare, ton ami, est malade. » Sous-entendu, gravement malade. N'allez pas déranger le maître pour un rhume. Et quand Jésus entend ça, il ne fait rien dans l'immédiat. Il reste encore 2 jours en Galilée. Parce que, comme je vous l'ai dit, retourné en Judée, Lazare, il habite dans la banlieue proche de Jérusalem, à 3 kilomètres environ de Jérusalem, Béthanie. Retourner en Judée, c'est se jeter dans la gueule du loup. Mais au fond, c'est pas ça qui retient Jésus, apparemment, parce que 2 jours plus tard, il y va quand même. Pourquoi est-il resté encore 2 jours? Nous n'en savons rien. Et je ne me lancerai pas dans des conjectures. Simplement, certains ont cru voir que Jésus attendait que Lazare soit mort afin de pouvoir le ressusciter. Ça, c'est certainement faux, parce qu'il suffit de rassembler les éléments que nous donnons pour savoir que, en fait, pour aller de Béthanie en Galilée pour chercher Jésus, le messager a sans doute pris 1 jour. Jésus restait 1 jour, puis il est descendu. Ça lui a encore pris 1 jour. Donc, au plus tôt, Jésus arrive à Béthanie 4 jours après l'envoi du messager. Or, nous apprenons que Lazare est mort 4 jours plus tôt. Ce qui veut dire que, sans doute, Lazare est mort peu de temps après qu'on ait envoyé ce messager. Et au moment où celui-ci parle à Jésus, Lazare est déjà mort. Et Jésus le savait. Il ne me demandait pas comment, mais Jésus le savait, ces choses. Et donc, ce n'est pas pour attendre que Lazare soit mort, que Jésus s'est attardé. Pourquoi l'a-t-il fait? Je ne sais pas, mais c'est une constante chez Jésus, c'est qu'il a son agenda à lui, il a ses heures à lui, et quand on le pousse à faire quelque chose, en général, il ne suit pas. On l'a vu lors des noces de Cana, quand Marie veut le pousser à faire quelque chose, il lui fait clairement comprendre que c'est son affaire à lui. Et de même, un peu plus tard, quand ses frères et sœurs vont à Jérusalem et l'invitent à venir avec eux, monter à la capitale, se montrer à tout le monde. Il dit non. Il y va plus tard, à un moment de son choix. Mais, pour finir, Jésus s'en va à Béthanie, voir Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. Et c'est la deuxième scène de notre récit, quand Jésus arrive dans les environs de Béthanie. Et là, nous voyons Marthe s'activer. Les lecteurs des évangiles connaissent Marthe et Marie. Il y a notamment dans l'évangile, selon Luc, un récit dans lequel Marthe joue un peu le mauvais rôle. Jésus est chez eux, il enseigne, Marie l'écoute et Marthe s'agite dans la maison. Et à un moment donné, elle n'en peut plus, elle se plaint que Marie ne l'aide pas et Jésus lui fait clairement comprendre que c'est Marie qui a fait le bon choix. Et depuis ce récit, Marthe a un peu mauvaise réputation. C'est l'activiste. Mais ici, en fait, Jean rétablit en quelque sorte l'honneur de Marthe. Et nous verrons que c'est elle qui, dans notre récit, en fait, a fait les bons choix. En juge des quelques textes que nous avons, on pourrait dire, c'est toujours dangereux d'extrapoler, mais on pourrait dire que, a priori, Marthe semble être la femme active, celle qui va au-devant des choses. Alors que Marie semble être un naturel plus contemplatif. Dans les circonstances de notre situation, on voit bien que l'approche de Marthe est la bonne. Donc Marthe va vers Jésus et elle lui dit « Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort, mon frère. » Un problème avec les évangiles qu'on a, c'est qu'on n'a pas la bande originale. Parfois, ça aiderait à mieux comprendre comment les choses sont dites, pour savoir ce que les gens ont voulu dire. Est-ce qu'il y a ici du reproche envers Jésus? Je ne pense pas, personnellement. Parce que Marthe n'était pas stupide. Elle savait parfaitement que peu de temps après l'envoi du messager, Lazare était mort. Jésus ne pouvait pas être là avant. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Très certainement. Et peut-être quelque chose de cette amertume qu'on peut avoir dans la vie, quand un coup dur nous atteint, et on se dit, flûte, s'il avait été là, et Dieu sait que Jésus était souvent dans la région de Jérusalem, s'il avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Peut-être il y a un peu de ça dans les paroles de Marthe. Et puis il ajoute quelque chose de très intéressant, qui a fait couler énormément d'encre, parce qu'on ne sait pas très bien comment prendre cette phrase. Elle a dit, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors si on prend cette phrase comme elle est, isolée du contexte, on a envie de voir là l'anticipation par la foi de ce qui va arriver. Est-ce que Marthe est en train de dire, mais maintenant tu peux encore le ressusciter? C'est possible. Ce qui pose problème, c'est la suite des événements. Parce que dans la suite des événements, Marthe, elle ne va pas être à la hauteur de cette approche. Et quand Jésus dit, ouvrez la tombe, ce qui est d'ailleurs un acte illégal. Mais quand il dit, ouvre la tombe, elle dit, mais attends, il pue déjà. Peut-être lui est-il arrivé ce qui peut nous arriver dans la vie chrétienne, que parfois nous avons des élans de foi qui nous permettent de voir loin, et puis en avançant, tout d'un coup, on prend peur de notre courage. Vous avez ça chez Pierre, quand Jésus marche sur l'eau, et Pierre lui dit, c'est magnifique, ordonne que je te rejoigne sur l'eau, il dit, viens, et Pierre il y va, c'est vraiment la foi à l'œuvre, et puis tout d'un coup il prend peur et hop, il s'enfonce. Peut-être c'est arrivé à Marthe aussi d'avoir vu très loin et puis d'avoir pris peur de son propre courage. En tout cas, ici s'exprime une forte confiance en Jésus. Et la réponse de Jésus, elle est très lapidaire. Il lui dit, il ressuscitera ton frère. Il ressuscitera. Et quand on connaît la suite des événements, c'est parfaitement ambigu ce qu'il dit là Jésus. Et Marthe va répondre en disant, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Donc là, on se projette très loin. Je sais qu'il ressuscitera. Affirmation doctrinale impeccable. Certes. D'ailleurs, tout le monde, à l'époque, déjà ne croyait pas ça. Nous savons que les Sadduciens, la noblesse du temple, ils avaient abandonné ces idées. On ne croyait plus à la résurrection, ni aux esprits, ni tout cela. Ça existait déjà à l'époque. Mais elle est sincère dans cette tradition qui est plus proche de l'écriture, où là, on discerne quand même qu'il y a quelque chose à venir. Ceci étant dit, je me demande si Marc n'est pas en train de lancer un hameçon à Jésus. Si elle a envisagé, comme je peux le penser, qu'il pouvait encore faire quelque chose, qu'il pouvait ressusciter Lazare. N'est-ce pas une façon de dire, dis-moi plus de ce que tu veux dire par là, par cette résurrection. Moi je lui dis, il ressuscitera à la fin des temps. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Et je ne sais pas si c'était pour faire parler Jésus, mais en tout cas, si c'était pour ça, c'était une réussite, parce que Jésus va lui donner une réponse absolument magnifique et qui atteint le sommet en fait, de notre chapitre, plus même que la résurrection de Lazare elle-même. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui donner une de ses grandes affirmations sur sa personne, dont nous avons déjà vu plusieurs, et il y en a encore d'autres qui vont venir. Ces affirmations du genre « Je suis la lumière du monde, c'est moi le bon berger, c'est moi la porte pour les brebis » et ainsi de suite. Vous connaissez ces textes. Et là, il y en a un autre, « C'est moi la résurrection et la vie ». C'est comme s'il disait à Marthe « Mais attends, Marthe, tu n'y es pas tout à fait. Tu te projettes à la fin des temps. Ce qui va se passer, peut-être penses-tu que je peux ressusciter, que Lazare peut sortir de la tombe là. Tu cherches dans l'au-delà, ou ici et là, mais ouvre les yeux, je suis là devant toi. C'est moi la résurrection et la vie. Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas à la fin des temps, ne cherche pas ici, ne cherche pas là, je suis devant toi, ouvre les yeux. » Et puis, je n'avais pas vu ça jusque-là, c'est en préparant ce message que je me suis rendu compte que ce qui suit semble être l'illustration de ses propos, à savoir la phrase qui suit semble illustrer la première proposition, « Je suis la résurrection », et la deuxième, le verset 26, semble plutôt illustrer le deuxième argument, « Je suis la vie ». Chacune de ces phrases semble se rattacher séparément à ce qui précède. Donc, si j'ai raison de dire ça, d'abord, c'est moi la résurrection. Cette phrase, elle se retrouve dans « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra ». Et je crois qu'on ne peut pas lire ce texte sans nous souvenir de ce que nous avons vu déjà dans le chapitre 5 de notre évangile. C'est à partir du verset 24. Et là, au verset 27, si mes souvenirs sont bons, vous avez cette phrase. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Donc Jésus dit ici très clairement, « Ceux qui sont dans les tombeaux, entendront ma voix, c'est Jésus qui parle, et sortiront, soit pour la vie, soit pour la condamnation. » Et nous pouvons retrouver ça ici dans ces paroles-là, me semble-t-il. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. En quelque sorte, la résurrection des fins des temps, ça c'est moi. C'est moi le maître des événements. C'est moi qui déclenchera. Ce sera au son de ma voix que les morts sortiront de leur tombe. On dit, d'accord, mais pourquoi alors la référence à la foi? Cela ne concerne-t-il pas tous les hommes, qu'ils soient croyants ou pas? La résurrection des morts n'était pas pour tous, certes. Mais, comme nous l'avons vu au chapitre 5, la résurrection pour la vie, ça c'est réservé aux croyants. Les autres ressusciteront pour le jugement, pour la condamnation. Donc, c'est moi la résurrection. Et puis, il ajoute, c'est moi la vie. Et cela, on le retrouve au verset 26, donc, « Et quiconque vit et croit en moi il ne mourra jamais. Alors là, je pense qu'il faut de nouveau retourner au chapitre 5, qui est un peu plus explicite. Là, vous avez cette phrase très importante. En vérité, je vous le dis, ça, quand Jésus dit ça, c'est que ce qui suit est important. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Croire, c'est avoir la vie. Et puis, très important, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et c'est maintenant. Donc là, on ne parle plus de la résurrection à la fin des temps. C'est quelque chose qui est ici et maintenant, quand Jésus parle. Il est venu dans un monde peuplé de morts. Et il a enseigné la bonne nouvelle. Et ceux qui ont cru, ils ont commencé à vivre. Et celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Là, vous êtes sur ce plan-là. On n'est plus sur le plan de la résurrection, on est sur le plan de la vie en Jésus, de la vie éternelle. Quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. D'une certaine manière, peut-on dire, celui qui croit, celui qui reçoit la vie, il ne mourra plus jamais. Alors vous pouvez dire oui, mais est-ce que ça veut dire que les croyants sont immortels? Certainement pas. Je vous l'ai dit, on mourra bientôt. Et l'Écriture est assez claire sur le sujet. Il ne faut pas croire qu'il y a quelques-uns, quelques élus qui sont en dehors de tous ces problèmes et sont immortels. Non, non, nous mourrons, mais d'une certaine manière, peut-on dire, nous vivons et cette vie ne sera plus jamais éteinte. On le voit en Jésus lui-même, le prince de la vie, celui qui est la vie. On l'a assassiné, on l'a enterré, on a mis un couvercle dessus en disant « c'en est fini ». Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a la vie en lui-même et la vie ne reste pas dans la tombe. Et cette vie est sortie. Et nous aussi, nous avons reçu quelque chose de lui, quelque chose de cette vie qu'il est, l'esprit de vie. Il est en nous, si nous croyons. Et cette vie ne saura être supprimée. D'une certaine manière, nous ne mourrons plus jamais. Plus jamais. Si vous voulez une illustration, prenez un grand ballon. Un grand ballon et vous gonflez d'air. Après, vous allez plonger ce ballon dans la mer. Vous allez là où la mer est la plus profonde, 11 km dans le Pacifique. Vous amenez ce ballon au fond de la mer. Il sera tout petit, tellement la pression est énorme. Il ne reste plus grand-chose de votre ballon. Et vous le lâchez, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter. Il va monter, il ne peut pas en faire autrement. Il faut qu'il monte, ça va prendre un temps. Mais tôt ou tard, vous pouvez être certain, il va crever la surface. Et c'est la même chose avec cette vie qui est en ceux qui ont cru à Jésus. Celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe, elle fait là une des confessions les plus belles qu'on puisse faire. Elle a compris, Marthe. Elle dit, oui Seigneur, je suis convaincu que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Peu de gens de son époque ont pu en dire autant. Ayant dit cela, il faut tout de suite que j'ajoute que cela ne veut pas dire que la mort n'est rien, finalement. C'est juste un mauvais moment. Ce n'est pas ça. Et on le voit d'ailleurs dans la suite de notre récit. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Marthe s'en va, elle va chercher Marie, et Marie arrive avec tout son chagrin. Elle est écrasée par le chagrin. Elle se jette aux pieds de Jésus, elle se lamente, et les Juifs qui sont avec elle se lamentent aussi. Et nous allons voir la réaction de Jésus. Et c'est très intéressant, je vous invite à relire ce texte en pensant à la vie émotionnelle du Seigneur. Parce que là, vous avez un homme qui est sans faute. Et vous allez voir des émotions pures. C'est quelque chose que nous ne sommes pas capables de vivre. Mais là, c'est vraiment des émotions qui ne sont pas atteintes par le péché. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir deux choses. Premièrement, et ce n'est pas surprenant, vous avez le verset 35, je crois, qui est le verset le plus court de la Bible, semble-t-il, et qui dit « Jésus pleura ». Jésus est dans la tristesse. Jésus est ému par ce qu'il voit, par les ravages que fait la mort. Parce que la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe les liens. Elle nous arrache ce que nous aimons. Elle coupe les liens des relations qui ne sont plus et qui ne sont plus jamais dans cette vie. Et c'est atroce parfois. C'est atroce. Et Jésus lui-même, il reconnaît cette souffrance. Il la vit. Il a aimé Lazare. Et je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir cette souffrance autour de nous. Je me souviens, l'autre jour, j'ai vu un reportage sur le tremblement de terre en Haïti. Et on montrait un sauveteur français qui arrivait sur place avec les peu de moyens qu'ils avaient. Et on voyait deux enfants qui se jetaient sur lui en l'implorant de sortir leur père des décombres dans lesquels il était enterré. On voyait la détresse à l'état pur. La mort, c'est affreux. C'est affreux. Je pense à cette dame qui travaillait pour moi et qui, il y a 5 ans à peu près, a perdu son mari d'un cancer. Et je l'ai encore vue l'autre jour et elle ne s'est jamais remise de ça. Et elle ne s'en remettra sans doute jamais de cette perte. Je pense à notre factrice qui vient de perdre sa fille de 10 ans, Jade. Elle a encore un cancer. Et ça laisse un trou, et ce trou ne sera jamais comblé. Comment voulez-vous qu'il soit comblé? Donc, vous savez, là, cette énorme tristesse que peut provoquer la mort, ce n'est pas petite chose. Et puis, plus intéressant, si vous suivez Jésus dans sa démarche, quelque chose qui ressort pas très bien dans nos traductions, mais pas parce que nos traducteurs sont mauvais, parce que c'est pratiquement intraduisible. Et aussi dans le morceau musical, ce n'est pas vraiment ressorti. Quand Jésus s'avance vers le tombeau de Lazare, à deux reprises, il déborde d'une autre émotion. Dans vos traductions, c'est peut-être dit « il fut ému très profondément » ou quelque chose de ce genre. Le texte grec de l'original nous indique, et il faut être dans une bonne Bible, que ce soit dans une note de bas de page, que c'est un verbe qui exprime une énorme colère. Une énorme colère. C'est pas une émotion quelconque, c'est de la colère pure. C'est le verbe qu'on utilisait pour des chevaux qui s'ébrouent. C'est vraiment la colère. Difficile à traduire, on n'a pas de mots pour dire ça. Mais sachez-le, Jésus est dans une colère noire. Et les commentateurs se sont penchés sur la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui le met dans une telle colère? Je pense que la meilleure proposition que j'ai vue, c'est celle qui dit que, vous savez là, le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, qui vient dans ce monde et qui voit les ravages que fait le péché. Parce que la mort, c'est le salaire du péché dans le monde. Il voit ce que l'adversaire a fait de sa création qui était bonne et parfaite. Et face à cela, il réagit avec une colère noire. Et Jean Calvin, en commentant ce passage, il a dit une chose très profonde, très juste, me semble-t-il. Il a dit, Jésus s'avance vers le tombeau de Lazare, non pas comme un spectateur oisif, mais comme un combattant prêt à en découdre. Là, il va en arracher un à cette chienne qu'est la mort. La mort, ce n'est pas rien. Elle provoque en Jésus cette souffrance, cette compassion, elle provoque en Jésus cette colère du Créateur. Et je dirais, la mort, elle tire sa terreur d'autre chose encore. C'est que derrière la mort, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grave encore, de beaucoup plus terrifiant, qui jette son ombre et qui donne toute sa terreur à la mort physique. Et cette réalité, c'est Jésus qui en parle le plus dans l'Écriture. Cette réalité, c'est ce que l'Apocalypse appelle la deuxième mort. C'est ce que Jésus appelle le ver qui ne meurt pas, le feu qui s'éteint pas. Quand il parle de ceux qui sont jetés dehors dans les ténèbres, où il y a pleurs et grincements de dents, le temps, cette réalité qu'on a l'habitude d'appeler l'enfer. Cette deuxième mort, elle est à l'arrière-plan de cette horreur qu'est la mort. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, la mort ? La mort, elle fige les choses. Vous avez vu, Jésus promet cette vie à ceux qui croient. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui ne saisissent pas cette offre de salut en Jésus-Christ, qu'est-ce qui les attend ? C'est cette deuxième mort. C'est la mort, la vraie mort. Et la mort physique a cela de terrifiant qu'elle fige les choses de manière irréversible. Si vous avez saisi le salut en Jésus-Christ, vous avez la vie en vous. L'esprit de vie est en vous et vous vivrez. Mais si vous ne l'avez pas, c'est la mort qui vous attend. Et la dernière occasion sera passée quand la mort physique aura frappé. C'est en cela qu'elle est terrifiante par-dessus tout. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui trouve ça risible ce que je dis. Si vous trouvez ça risible, riez toujours. Il n'y a rien à faire, moi, pour l'instant. Mais peut-être il y a quelques-uns ici que ça chatouille, que ça vous fait quelque chose, mais vous n'êtes pas encore certain d'y être. Si c'est le cas, je vous implore, au nom de Jésus-Christ, ne vous donnez pas de repos avant de savoir